Le thème de ce soir, c'est le fanatisme. On va essayer de définir c'est quoi le fanatisme et quelles sont les qualités ou les défauts de cette caractéristique qui s'appelle fanatisme. Et aussi, quels sont les personnages qui pourraient avoir une tendance vers le fanatisme? Et comment il est composé? Est-ce qu'il est composé que par des données qui se trouvent dans les émotions ou dans le caractère de la personne? Ou est-ce que ça trouve aussi dans l'éducation, ou dans les connaissances, ou dans la propagande éventuelle que cette personne va rencontrer dans sa vie, qui pourrait forger, qui pourrait incliner sa tendance vers le fanatisme? Et bien sûr, on doit bien définir. Est-ce que le fanatisme, il est bon ou il est mauvais, ou est-ce qu'il est parfois bon ou parfois mauvais, ou est-ce qu'il peut être bon et mauvais? Et après, on va voir un peu des exemples qu'on voit dans le monde, qu'on voit dans la Torah, qu'on voit dans l'histoire. Alors, c'est un sujet, évidemment, quand on entend parler du fanatisme, la première pensée qui monte dans l'esprit, en tout cas ici en France, peut-être ailleurs aussi, on pense au fanatisme religieux. Et comme en France, depuis les années de Voltaire, c'est la tolérance qui est la valeur bien louée, donc le fanatisme religieux, il est conspué. Alors donc, quand on dit fanatisme en France, c'est automatiquement une connotation péjorative, parce qu'on pense tout de suite au fanatisme religieux, qui est en France considéré comme un défaut. Ça pourrait être un défaut, mais est-ce que c'est toujours un défaut? Ça dépend si on est... Il faut analyser ça. Mais la vérité, elle est que le fanatisme n'est pas forcément religieux. Le fanatisme est un phénomène qui n'est pas forcément de connotation religieuse. Ça peut être dans beaucoup de choses, dans beaucoup de domaines de la vie. C'est un fanatique. L'abréviation de fanatique, c'est un fan. Ce n'est pas exactement le fanatisme, mais fan, c'est un petit peu du fanatique. Il y a des fans, je peux être un fan d'un club de football. Ça n'a pas forcément une connotation religieuse, le football. Ou être un fan d'un chanteur, je peux être un fan de beaucoup de choses. On peut être un fanatique de football, on peut être un fanatique de... C'est quoi exactement le fanatique ? En vérité, fanatique, il y a aussi un autre mot qu'on appelle zélote. On utilise le mot zélote. En hébreu, normalement, on traduit le fanatique, c'est un canaï. Un homme qui aime caner. Canaï. Pinchas Kanaa. Tout le monde y connaît. Quand on tourne autour de la bima, le Pinchas, le canaï. Eliyahu Hanavi, il a dit « Kano kineti l'Hashem, j'étais un fanatique pour Dieu. » Eliyahu Hanavi, il dit « Je suis un fanatique. » Ça, évidemment, ça, avec Voltaire, ça fait mauvais voisinage. Pinchas était un canaï. C'est quoi le canaout? Et qui sont les personnes qui ont une tendance de devenir canaille? Et pourquoi? Canaille veut dire un homme qui est pris d'une colère. Quand il y a une effraction grave qui se produit, il veut restaurer la valeur qui est blessée. Quelqu'un y va à une injustice ou une immoralité que lui pense que c'est une immoralité. Ça pourrait être subjectif. Lui peut penser que c'est une injustice. Ou on lui a donné des valeurs. On a mis dans la tête de cette personne certaines valeurs que cette personne adore. Et que si ces valeurs sont blessées, il est pris d'une colère. Il faut que je restaure cette valeur qui est blessée. Et il veut aller et il y va jusqu'au bout. Contre vent et marée. Il est entier. Et d'autres valeurs qui pourraient s'opposer à ce comportement sont négligées, sont supprimées, sont balayées sous la table parce qu'il y a une valeur qui doit être restaurée coûte que coûte. Et souvent, contre ce que la majorité ou le monde entier dit. Le canaille, c'est quelqu'un qui a une détermination. Souvent, il a un courage et c'est un indépendant. Et les gens qui ne sont pas d'accord avec lui, souvent, à ses yeux, sont des gens mous, sont des gens faibles, sont des gens qui ont des doutes parce que lui, il est convaincu de la vérité qu'il détient, même contre tout le monde. Et le fanatique, à fur et à mesure, il y a différents degrés, il peut utiliser des moyens pour rétablir cette valeur qui est détruite. Il peut rétablir soit avec la parole, soit avec des gestes. Et quand il fait des gestes, il peut, ou des paroles ou des gestes, il peut effreindre certaines règles du derecherets, du comportement accepté, ou certaines règles de respect vis-à-vis des gens, ou le respect du corps humain. Il peut insulter des gens, il peut blesser des gens physiquement, il peut tuer des gens parce qu'il considère qu'il y a une valeur qui a été blessée et pour la restauration, il faut agir de cette façon. Ça, c'est le fanatisme. Maintenant, ce qui amène à une personne d'agir comme fanatique, il faut évidemment plusieurs parties dans son âme et dans sa conscience qu'il incline. Soit qu'il a une nature comme ça, entier, pas moitié-moitié, il est entier. Souvent, il a une tendance vers la colère. Parfois, il a une tendance vers un aveuglement. Parfois, il a un manque de pitié. Il manque de prendre en considération beaucoup de choses. Il a une vision partielle des choses. Mais parfois, il peut avoir une vision entière de la chose. Il peut être un homme avec pitié et avec considération pour tout le monde. Mais il considère qu'ici, la situation l'oblige de sortir de ses gonds. Et qui a une valeur au-dessus de tout ce que des autres valeurs qui doivent être défendues. Ce sont le, ça c'est le fanatique. Maintenant, le fanatique, il peut être évidemment défendre les valeurs qui sont des valeurs absolues ou qui sont des valeurs subjectives. La valeur peut être une valeur de morale, la valeur peut être extérieure à lui. Il peut défendre l'honneur de Dieu, quand il s'agit d'un fanatisme religieux, il peut défendre la valeur d'une communauté, des prophètes, des valeurs de comportement humain, une immoralité qui se fait, ou ça peut être autre chose. Il peut être un fanatique quand sa propre honneur est blessé. Quelqu'un, il a blessé son honneur. Ou il est blessé par la société, il est agressé, ou il s'est mis dans la tête qu'il est agressé, où il peut mouliner dans sa tête du paranoïa, de croire que le monde lui en veut, et il veut défendre son honneur, ou son argent, ou dans son pays, un patriote. Il existe le patriotisme. Je défends mon pays qui est agressé par un autre pays. Une autre nation envahit ma nation, ma famille, et ils nous font du mal. Et je défends avec toute ma fougue, avec toute ma colère. Je peux le faire avec les actions, avec les paroles, indignation. Il y a des gens qui écrivent des fois des livres, des manifestes indignés. Je pense qu'il y en a un qui est... Il n'y a pas longtemps, un iftar, comment il s'appelait le gars? Voilà, indignez-vous. Alors, c'est beau de s'indigner. Ça montre qu'on a un peu de chaleur dans le cœur. On n'est pas complètement apathique, on n'est pas complètement émoussé. Des fois, les sentiments sont émoussés, je m'en fous. Eh bien, le fanatique, il s'en fout pas. Le fanatique, il est sensible. Mais il est sensible à quoi? Il s'indigne de quoi? D'une injustice. En tout cas, de ce que lui considère comme injustice. Si jamais on lui a fait de propagande, il est tombé dans une propagande, on lui a inversé les valeurs, si sur le persécuteur et le persécuté, on inverse les données, alors on peut trouver un fanatique sérieux, intègre, qui défend pas la bonne valeur. Mais chez lui, c'est la bonne valeur parce qu'il vit dans un monde qui ne correspond pas à la réalité. Entre le bon fanatique et le mauvais fanatique, il faut voir sur quoi est basé, à quel moment il a décidé d'être un fanatique et quelle est la valeur qu'il défend. Et il faut voir, évidemment, est-ce que c'est quelque chose de personnel, c'est son honneur personnel. Est-ce que son fanatisme est basé pour aller défendre jusqu'au bout sa propre honneur qui est touché, ou l'honneur d'autres personnes, ou l'honneur de Dieu. Après, il faut analyser si on veut juger si un fanatisme est bon et mauvais. Il faut voir si vraiment son action, elle est utile ou elle est inutile, ou si c'est du vent. Ça c'est la base de la base. C'est le début de ce qu'on doit analyser chaque fois quand on entend un homme parler ou on voit un homme agir ou des gens agir avec des gestes de fanatisme. Alors, on va voir un petit peu plus dans la Torah. Est-ce que nous avons des exemples de fanatisme? Est-ce que la Torah, elle a donné un jugement de valeur, afin de nous pouvoir orienter à savoir est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est mauvais? Alors, je vais prendre quelques exemples de la Torah qui sont connus, évidemment. On va essayer de les éclairer un petit peu. Il n'y a pas longtemps, 2, 3, 4 semaines, on a fait une histoire. Tout le monde connaît l'histoire de Shrem. Quand Yaakov Avinu est arrivé avec ses enfants, ils se sont installés dans la ville de Shrem. Et là-bas, le maire de la ville, il avait fiston du maire. Il a vu Dina, la fille de Yaakov. Elle lui a plu. Et sans demander, il a pris Dina chez lui à la maison. Et il a fait ce qu'il a fait. Bon. Les frères, ils ont entendu ça. Quoi? Quelqu'un, il a touché notre sœur Dina. Ah non, ça ne se passe pas comme ça. Ils étaient très en colère, il est marqué dans la Torah. Très en colère. Les gens, ils étaient très en colère. Ça, déjà, il faut analyser. Cette colère, c'est une colère sainte ou cette colère, c'est une colère malsaine. La colère, c'est une émotion. Une émotion bonne ou mauvaise. Comme il dit le Rambam, on ne peut pas dire sur une émotion, ou même si c'est un caractère de façon définitive, bonne ou mauvaise. Parce que caractère, ça s'appelle mida. Et mida se traduit mesure. Une mesure. Tous les médecins, ils savent, ou plutôt les pharmaciens, que quand on demande à un pharmacien, voilà, il est malade, il lui faut un médicament. Est-ce que ce médicament est bon pour guérir cette maladie ou pas? Alors, si le pharmacien, il dit oui, c'est bon, et après le malade, il va dire, alors si c'est bon, alors qu'est-ce que je dois prendre? Et bon, vous prenez une cuillère de café le matin, une cuillère de café le soir. Et si le malade, il va dire, si, une cuillère de café, une cuillère le soir, qu'est-ce qu'il me dit le médecin pendant 7 jours, ça guérit. Alors, si je vais prendre une cuillère de soupe le matin, et à midi et le soir, je vais guérir dans 2 jours. Et parfois, il faut après que le croque-mort le ramasse. Et après, on va dire, mais le médecin, il a dit que c'est bon, mais mida, seulement à condition que c'est la bonne mesure. Mais si vous exagérez, c'est mauvais. Évidemment, la colère, les frères, ils avaient une colère. On peut dire, la colère, c'est quoi la colère? C'est que ton kavod, il est touché. Notre sœur était touchée. Il a osé de toucher notre sœur. Chutzpa, il a touché. On lui montrait qui c'est nous touche. Ou peut-être c'est autre chose. Mais il y a une notion de kedusha. Il y a une notion de moralité. Il y a quelque chose qui s'appelle immoral. Il y a une immoralité qui se fait. Notre sœur a été touchée, il a blessé quelque chose chez notre sœur, elle a subi un traumatisme. Il faut rétablir ce traumatisme. Il faut montrer à la sœur qu'on la défend, qu'on ne peut pas abuser d'elle. Il faut montrer ça peut-être à toute la société autour de nous. Il faut que les gens y savent qu'on ne se comporte pas comme ça. Il y a une valeur de moralité qui a été touchée. Et si Akadosh Baruch Hu, il a créé l'émotion qui s'appelle colère, l'indignation, c'est bien pour qu'on ne reste pas insensible. Si on reste insensible devant l'immoralité, Tous les jours, il y a une autre immoralité. Et tous les jours, les gens ils vont avancer. Et le monde sera perverti. Alors, Akadosh Baruch Hu, il a créé la notion, je me mets en colère. Et des fois, il faut que j'agis. Et c'est ça que les frères ont décidé. Alors, qu'est-ce qu'ils ont décidé? Ils ont décidé que ce monsieur qui a fait ce qu'il a fait, il doit mourir. Et ils ont mis dans la même marmite, pas seulement lui, mais toute la ville. Alors, ils ont organisé un joli massacre, on fait la Brit Mila, tout le monde est malade. Vaikrouchne bené Yaakov, Shimon et Lévi, ils ont pris une épée, grosse comme deux pommes qu'ils étaient, ils avaient 13 ans, et ils ont coupé la tête à la Daesh pour tous les gens de la ville de Shrem. Après, ils ont pris toutes les femmes et les enfants, ils ont pris tous les animaux, les lingots d'or, l'argent, tous les habits, ils ont tout pillé. Voilà. Le père, il a entendu ça. Le père, il a entendu ça, ils sont venus. Yaakov, il a dit, mais vous êtes fous, vous. Mais qu'est-ce que vous faites? Mais nous sommes une petite famille. Mais tous les gens autour, ils vont tous se réunir, ils vont nous massacrer. Vous nous avez mis en danger de mort. Mais qu'est-ce que vous faites? Et les deux gars de 13 ans, ils disent, Hachazona, Yaset, Achotenu, est-ce que nous allons laisser que notre sœur va être abusée comme une fille légère de la rue? Non. C'est impossible. On ne peut pas laisser. Et la réponse à Descat, c'est de donner une leçon pour toute la région, que le prochain sera averti, ceux qui touchent les filles de Yaakov, eh bien, toute la ville sera massacrée. Ils vont se rappeler ça pour quelques siècles. Et ils avaient raison. Parce que c'est pas quelques siècles qu'on se rappelle. Ça fait 3000 ans qu'on connaît l'histoire. Quelle était la réponse de Yaakov? Quand les deux, ils ont dit à Yaakov, papa, Hachazonaï et Setachotenu, ils ont défendu leur comportement. Qu'est-ce que Yaakov a répondu? Rien. Silence total. Pas de réponse. Qui dit mot consente. Ça veut dire que Yaakov, il a... Vous avez raison, les enfants. J'ai rien à dire. Et sûrement Shimon et Lévi, je m'imagine, ils sont partis. Bon, papa, il s'est incliné à nous. Mais on attend un petit peu. Il se passe 10 années, 20 années, 30 années. La semaine prochaine, Shabbat, on va le lire. Parashat Vayechi. Yaakov, il se trouve sur le lit de mort. Il appelle tous les enfants. Et les enfants, ils sont devant lui. Il appelle un après l'autre. Ils arrivent, Shimon ve Levi Achim. Klei Hamas, Mecherotem. Vous avez volé un caractère chez votre oncle Esav qui s'appelle violence. Vous avez volé un caractère de violence. Votre manipulation, ce que vous avez concocté là-bas à Shrem, je ne suis pas d'accord. Car avec leur colère, ils ont tué toute une ville de Shrem comme un homme. Ubertsonam et dont leur volonté était Ikrushor de déraciner le taureau, de tuer aussi Yosef. Arour apam ki azve evratam ki kashata maudit leur colère car il est dur evratam et leur fureur leur enflammement ki kashata car il est dur que cette colère sera maudit ça veut dire affaibli détruit maudire on cherche que cette chose là perdre sa valeur, perdre sa force, que cette colère sera maudite. Alors voilà, ce sont les mots de Yaakov. Voilà, il a fait un jugement sur la colère de ses deux enfants. ce qui est étonnant, que si jamais Yaakov n'est pas d'accord avec le comportement de ses deux enfants, il aurait pu le dire tout de suite. Quand Shimon et Lévi ont dit « Papa, on ne peut pas laisser notre sœur d'abuser », il faut que tout de suite Yaakov leur dise « Vous avez agi par colère et je maudis cette colère ». Mais Yaakov met tous ses bouches cousues. Rien. Pourquoi il leur dit rien? Mais le pshat, il est quand quelqu'un il fait un geste de fanatisme, étant donné qu'il existe du fanatisme qui est pur, qui est juste, où vraiment la personne, ce qui lui fait mal au cœur, c'est vraiment l'immoralité qui a été faite. Et les dégâts réels qui étaient faits, qu'il veut rétablir, qu'il veut réparer. Et il existe un fanatisme où c'est l'orgueil personnel qui était. Et aussi la mesure avec laquelle on agit. Alors Yaakov Avinu a dit, je vois mes deux enfants, ils sont sûrs qu'ils ont agi bien. Ils sont sûrs qu'ils ont agi bien. Ils avaient 13 ans à l'époque. Yaakov Avinu à l'époque, il avait plus que 100 ans. On peut se poser la question, pourquoi les deux gamins, Shimon et Lévi, à 13 ans, ils veulent tuer toute la ville de Shrem? Ils peuvent consulter le grand rabbin de Shrem, non? Leur père, ils ont accès. Papa, tu sais, quelqu'un il a abusé de notre sœur. Oui, je sais. Tu sais, papa, qu'on est en grande colère. Oui. Tu sais, papa, qu'il faut remettre ça en pendule à l'heure. Oui. Tu sais, papa, qu'on a un grand projet. Oui. Tu veux écouter notre projet? Dites. Eh bien, on a aiguisé notre couteau, on va couper demain la tête de tous ces gens-là. Ils peuvent le dire au papa. Et papa, il va dire, ouais. Oh, papa va dire, Oh, papa va dire, je le déconseille. Oh, papa peut dire, je vous interdis. Bon. Mais eux, ils n'ont pas demandé. Ils ont agi. Pourquoi ils ont agi? Pourquoi ils ont agi? Parce que j'étais sûr que papa, il est d'accord. Non. Tu es si... Sûr? Pourquoi sûr? Comment tu peux être sûr? Tu es quand même... Tu es comme ça, une ville, c'est pas tous les jours on fait ça. Non. C'est parce qu'il craignait que papa, il va faire comme ça. Que papa veut dire, je vous permets pas. C'est pas bon. Mais si papa, il va dire de pas le faire, on peut pas le faire. Mais on veut lui le faire. Donc on ne demande pas. Donc on agit. On met papa devant le fait accompli. Et après coup, il n'a qu'à crier après. Ah, il sera d'accord après. Mais attends, mais si papa vraiment il veut pas qu'on le fasse, pourquoi nous on veut qu'on le fasse? Parce qu'on est plus intelligent que papa. Non, on est plus intelligent. Non, ça on ne peut pas dire. Nous sommes plus intelligents que papa. On a 13 ans, lui, il a 110 ans. Il connaissait son père Yitzhak, il connaissait son père, son grand-père Abraham. Non, on ne peut pas dire qu'on est plus intelligent. Ça, il ne faut pas soupçonner si on voulait pour être vraiment des fous. Non, c'est peu. Papa, il est plus intelligent, mais parce qu'il est plus intelligent, il n'a plus la ferveur de la jeunesse. Il déjà dans l'âge, il ne sait plus, les jeunes, nous on a encore le feu. Et cette affaire doit être réglée avec le feu de la jeunesse. Oui, mais papa aussi, une fois il était jeune. Oui, mais avec l'âge, on devient un peu... Bon, on ne veut pas demander, on va agir. Bon, Yaakov dit rien. On va voir. Qu'est-ce qui se passe après cette histoire? Après cette histoire, La Torah continue à raconter et Yosef y fait des rêves. Et voilà, il raconte à ses frères, vous savez frérot, je me suis vu dans le rêve. On est en train de couper du blé et on fait des gerbes. Et alors ma gerbe, elle se lève. Kamal ou Matib, ça va. Et j'ai vu 11 gerbes autour de moi. 11 gerbes, vos 11 gerbes sont venues se prosterner à mes pieds. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, vous l'avez compris. Oui, on a compris, frère. Tu veux qu'on se prosterne à tes pieds, même pas dans le rêve. Ah oui, mais j'ai vu un deuxième rêve. J'ai bien vu 11 étoiles avec le soleil, la lune. Sont venus se prosterner à mes pieds. C'est quoi encore une fois? Tu veux qu'on se prosterne à tes pieds? Ah oui, mais c'est pas moi qui veux, c'est Dieu qui veut. C'est le rêve, roi HaKodesh, le ciel, il veut que vous vous prosterniez mes pieds. Ah non, ça passe pas comme ça. Alors le texte, il dit, Yaakov il va visiter ses 10 frères, qui sont en train de faire paître les moutons de leur père. Voyons, Ruish et l'Achiv. Voilà le rêveur qui vient. Bon, enfin, on va le prendre. Nahargé, on va le tuer. Venirez, Mayol Chalomota. Après, on va se débrouiller avec ses rêves. Ça y est, on va le tuer, ce type. Pourquoi voulez-vous me tuer, frère? Mais parce que tu es fou. Je suis fou. Bon, en quoi ça vous dérange que je suis fou? Non, mais tu as blessé une grande valeur. Ah, quelle valeur j'ai blessée? Mais tu nous dis qu'on doit se prosterner devant tes pieds. Oui, mes frères. Mais tu veux être le roi sur nous. Oui, messieurs. Mais tu comprends pas que tu nous blesses? Quoi? Mais tu nous blesses. Mais je blesse quoi? Mais nous, on va se prosterner devant tes pieds? Oui, vous allez vous prosterner devant mes pieds. Mais tu nous blesses. Je vous quoi? Mais c'est un déshonneur pour nous. Nous, on se prosterne devant toi. Mais ça nous fait honte. Ah, ça vous fait honte. Alors, vous voulez faire quoi exactement, les frères? Eh bien, on va te couper la tête. Vous voulez me couper la tête? Pourquoi? Parce que tu nous fais honte. Et alors, pourquoi vous me coupez la tête? Mais il faut rétablir la valeur, l'échelle des valeurs. Quelle échelle des valeurs? Mais nous sommes des gens importants, on n'a pas à se prosterner devant toi. Ah oui. On est très en colère contre toi, tu comprends? Ah oui. Et donc, on te coupe la tête. Et si Rouven ne laisse pas, Rouven il a arraché Simon et Lévi, alors au moins, ici, il a son cobra vénéneux avec son scorpion, on te jette dessus. Mais non, vous n'allez pas me faire ça. Mais pourquoi? Mais il faut rétablir ici l'honneur des gens. Quel honneur? Mais notre honneur est blessé. Ah, votre honneur est blessé. Oui, très blessé, tu mérites la mort pour ça. Ah bon. Mais ils l'ont fait. À la fin, quand Yaakov est sur le lit de mort, il apporte Shimon Velevi. Shimon Velevi. Mais qu'est-ce que vous avez fait avec votre colère? Ki ba'apam hargu ish, ou birtsonam ikrushor. Avec votre colère, vous avez tué toute une ville de Shrem. Mais dont votre volonté était aussi de tuer votre frère. Shrem, une ville vous avez tué. Quel était votre argument? Mais la sainteté de notre sœur est en danger. La moralité de la fille de Yaakov. Ah, c'est la kedusha de la kedusha, la sainteté de Yaakov, ou c'est notre sœur a été touchée. Ah, zona ya aset achotine quoi? Notre sœur. C'est parce que c'est la vôtre, ou c'est parce que c'est une valeur de kedusha? Qu'est-ce qu'il vous a bouilli? Quelques semaines après, il s'agissait de votre honneur. Votre honneur a été touché parce que vous n'avez pas voulu vous prosterner devant Yosef. Alors votre ego, il est blessé. Et pour rétablir l'ego, vous êtes prêt à tuer. Ça c'est bien la colère. Ça c'est bien l'égoïsme. C'est votre honneur qui jouait. Votre sœur a été blessée. Il y a dans certains endroits dans le monde, quand une jeune fille n'est pas mariée, elle traîne avec un garçon, alors il y a ce qu'on appelle, on fait à la sœur ce qu'on fait pour rétablir l'honneur de la famille. Ça existe comme ça des gens dans le monde. Rétablir l'honneur de la famille et on peut parfois aller jusqu'à tuer la jeune fille. Et même si c'est pas elle qui est fautive, souvent c'est le garçon qui est fautif. Elle n'a pas fait exprès. Quand même, rétablir l'honneur de la famille. Et quand on demande à ces gens-là, mais pourquoi vous êtes si zélés? Mais parce que c'est une immoralité. C'est l'immoralité ou c'est l'honneur de la famille? Oui, mais l'honneur de la famille, c'est aussi quelque chose. Mais il faut l'honneur, il faut nous respecter. Oui, oui. L'honneur d'une famille qui était blessée. L'honneur, quod Adam, l'honneur de quelqu'un blessé, c'est il faut rétablir. Mais jusqu'à où? Jusqu'à aller tuer quelqu'un? Et jusqu'à aller tuer même ce qui n'est pas vraiment dedans? Les gens de Shrem. Shrem était fautif, lui. Mais tous les gens de la ville. Tous les gens de la ville, ils sont très, un petit peu seulement mêlés. Ils auraient dû dire à M. Shrem, on ne commence pas à négocier tout de suite la paix avec ces gens-là. D'abord, toi, M. Shrem, on va te clouer au pilori. D'abord, on va t'insulter pour ce que tu as fait. D'abord, on va faire la justice. D'abord, on va s'indigner. Après, nous allons voir comment on va négocier. Mais les gens de la ville, ça plaisait. On passe, on fait un pacte avec ces gens-là. On va se marier avec eux, c'est de bons businessmen. Et l'immoralité, ni vu ni connu. Alors, ils sont fautifs, mais ils sont fautifs jusqu'ils méritent la mort. Jusqu'ils méritent la mort. Pour l'immoralité, il mérite la mort. Non, mais pour notre honneur, il faut montrer aux gens. On nous a touchés. Alors, Evratam qui cachait à ça, ce que Yaakov, il a dit. Pourquoi vous êtes des gens violents? Parce que Apam Harguish, avec votre colère, vous avez tué toute une ville. Mais après, Birtsan et Mikrouchor, vous avez voulu tuer Yosef aussi. Ça, c'est une preuve que votre colère, c'est une colère des gamins qui ne sont pas mûrs et que leur honneur, leur égoïsme les fait perdre les moyens et vous avez une tendance de fanatisme, une tendance d'aller jusqu'au bout et de faire des choses qui sortent de l'ordinaire. Mais on peut être un fanatique et récupérer éventuellement ce fanatisme. Ce fanatisme, il a maudit ici la colère, mais pas toutes les composantes de ce qu'est un fanatique. Qu'est-ce qu'on trouve après quelques siècles? On trouve que de ce Shimon Velevi sortira une autre histoire de Shimon Velevi. À la fin des 40 ans dans le désert, le chef du tribu de Shimon, il profane la Kedusha du peuple juif. Les juifs, ils se laissent entraîner par des femmes goyotes. Et le chef du tribu de Shimon, il prêche, c'est permis, on n'a pas à se gêner. Kol dirfini te beyechol, chacun qui veut, il n'a qu'à se taper une goya. Et il est le premier, hein, il invite tout le monde, faites comme moi. Va'yar Pinchas ben Elazar ben Ara Kohen. Et Pinchas qui est le descendant de Lévi. Et il dit non, ça ne peut pas passer comme ça. Vaïkach Romach Beyado. Il prend une lance et il court et il tue. Il tue ce Zimri ben Salvo avec sa copine. Il tue. Et le peuple juif, il est en émoi. Mais qui c'est ce fou là? Mais qu'est-ce qu'il a fait? Mais il se prend pour qui ce Pinchas? Ah! Lui, comment il dit Rashi? Comment il disait les juifs? C'est l'arrière-petit-fils de Yitro, Shepitem Agalim la Avodat Elilim, Uba, Baharag, Nasib et Israël. C'est un arrière-petit-fils d'un homme qui a engraissé les veaux pour l'idolâtrie. Il est venu pour tuer Nasib et Israël. Alors, à quelques jours, il téléphone à Moshe et dit, Pinchas, Ben Elazar, Ben Aaron, à Kohen, Heshib et Chamatil, va Ben Israël, Bekanou et Kinati, Betoucham. Je le salue. Je salue l'acte de Pinchas. Phénoménal. Je suis content. Grâce à lui, je n'ai pas exterminé les Juifs. Éternellement, il peut être mon serviteur. Parce qu'il a fait du fanatisme pour son Dieu et il a défendu les vraies valeurs qui existent. Mais dans le tzanout, dans le mépris que les Juifs ils ont dit sur Pinchas, ils ont dit, mais qui c'est ce type-là? C'est un arrière-petit-fils de Yitro que dans sa jeunesse, il a gavé des veaux pour l'idolâtrie. Il est venu pour tuer un chef du peuple juif. Qu'est-ce que c'est? Son arrière-grand-père, d'abord quel rapport? Son arrière-grand-père... Il a gavé des veaux pour Avodah Zarah. Et pourquoi? Moi, je suis fautif parce que mon arrière-grand-père, il a fait. Et il a gavé des veaux. Et s'il n'avait pas gavé des veaux, s'il aurait acheté des veaux au marché, il a gavé des gros veaux pour l'idolâtrie. Et c'est pour ça que je n'ai pas le droit de tuer ce chef-là. Parce que mon grand-père, il a gavé des veaux pour Avodah Zarah. Mais parce qu'ici, les Juifs, ils ont bien compris. Il y a des gens qui font... des sacrifices pour l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est toute la perversité. Il fait un culte pour la perversité. Mais on peut apporter, il y a cette vache maigre, il y a cette vache grasse. On peut apporter une vache maigre, un squelette. On peut apporter un joli veau. Et on le gave pour qu'il sera grand. Qui est-ce qui apporte? Les gros. Je suis le meilleur. Moi, je suis le meilleur. Le plus religieux de tous. Vous l'avez vu, je suis le plus religieux. Vous me voyez? Maintenant, il faut que je monte un peu plus sur la tribune. Vous me voyez bien? Mon veau! Il est le veau le plus gros. Ah, c'est le mon veau. Ton grand-père, quand il faisait le culte pour l'idolâtrie, il était un extrémiste. Il voulait se montrer, il voulait montrer sa religiosité, sa spécificité. Je suis le meilleur. Oui, oui, vous avez ça dans les gènes dans votre famille. Oui, Pinchas, tu as tué le nasi du Shevet Mi'Israël. Tu as cherché quoi avec ton geste? Tu as cherché qu'on te voit, hein? Qu'on te regarde, comme ton grand-père. Excessive dans le culte. Oui, à l'époque c'était pour l'idolâtrie, et maintenant c'est pour Dieu, mais le caractère est le même. En vérité, l'idolâtrie, c'est toute la perversité qu'il y a dedans. Un culte absolu pour la perversité, et en plus tu voulais te faire montrer. Alors qu'est-ce qu'il dit à Kadesh Baruch Hu? Pinchas, Ben Elazar, Ben Aaron à Cohen. C'est le fils de Elazar, le fils de Aaron. Qui c'est ce Aaron? Aaron, c'est qui? C'est aussi des tribus de Lévi. C'est le chef du tribu de Lévi. Et comment il était son caractère? Ohev shalom, odev shalom, ohev et abriot, ou makarvan le makom. C'est l'ange divin sur terre. C'est Ohev Shalom, l'homme qui aime la paix. Rodef Shalom, c'est l'homme qui court derrière la paix. Ohev et Abriot, qui aime les gens. Ou Mekarvan Lamakom, c'est lui qui les rapproche à la Torah. Ça, c'est Aaron à Cohen. Et Pinchas, c'est son petit-fils. La définition du fanatique pervers, c'est qu'il a un problème avec la société. Il garde une distance. Il veut s'extraire. Il n'est pas bien avec les gens. Il voit les défauts des gens. Et il se prend comme supérieur. Et il aime de voir les erreurs chez les gens pour pouvoir les critiquer. Et Aaron à Cohen, il voit les erreurs des gens pour les réparer, pour faire qu'ils n'existent plus, pour voir que les gens sont en bien. Il ne kiffe pas de voir les gens dans leur faiblesse, pour pouvoir dire « Je suis meilleur et toi, tu as ce défaut. » Et si jamais je vois que l'autre avec son défaut, il va se réparer, non, je ne veux pas qu'il se répare parce qu'il va devenir mieux que moi, mais moi, je veux me sentir mieux que lui. Donc, c'est bien que les autres sont inférieurs. Et Aaron, il est celui qui rodef shalom, ohev et abriot ou makarvan la makom. C'est l'homme de la paix. Et Pinchas, cet homme de la paix, pour lui, la paix, c'est la valeur presque suprême. Et ce Pinchas, il dit, ce que Zimri a fait est inadmissible. Non, on ne peut pas laisser ça. On est obligé de défendre l'honneur de Dieu, l'honneur de la moralité. Si je n'interviens pas d'une façon énergique, les gens, ils vont dire, c'est pas grave l'immoralité. Il faut mettre les points sur les i, coûte que coûte. Je vais aller tuer le chef. Mais tuer, tu vas tuer, j'ai pas de solution. L'honneur de Dieu est en jeu. Mais tu seras grillé chez les gens. Tu sors de ta fonction de Cohen. Je vais perdre tout. L'honneur de Dieu, et il peut me tuer, Zimri. Il a risqué sa vie. Jusqu'au boutiste, dur. Mais au même moment, qu'est-ce qu'il est écrit? Vayamot Pinchas, vayefalel. Asa plilot imkono. La Gemara dit, quand il est, avant qu'il a tué, il a fait un tefil à Hachem. Il dit à Kadesh Baruch Hu, qu'est-ce que tu fais? Tu tues 24 000 juifs pour ce type-là? Non, c'est pas possible. Il a lutté contre Dieu pour défendre les juifs. Il a lutté contre les juifs pour défendre l'honneur de Dieu. Il a fait un double travail. Qu'est-ce qu'on donne au Kohanim? Le bras donne chaque animal qu'on fait la shrita. Chaque juif qui fait la shrita doit donner trois dons au Kohen. Le bras, parce que la keiva du veau, de la vache, parce qu'elle kavata. Et la joue, on donne au Kohen. Parce qu'il parle avec Hachem. Comment tu fais une chose? Les juifs, tu tues des juifs à cause de ce type. Il défendait les juifs. Parce que ça ne le kiffait pas de faire du mal à un juif. Parce que c'était une horreur pour lui. Mais on est obligé. Il n'y a pas de solution. Quand il n'y a pas de solution, il n'y a pas de solution. Et à Kadosh Baruch Hu, il a dit, je te salue. Ton courage et ta détermination. Tu m'as défendu, Bekano et Kinati, que tu es un fanatique. Après, on dit que la neshama de Pinchas est arrivée chez Eliyahu Navi. Et Elianavi était un Canaï. Qu'est-ce que ça veut dire, il était un Canaï? Elianavi, un jour, il était assis chez un type qui a perdu ses enfants. Il y avait un type qui s'appelait Chiel, il a construit la ville d'Éricho. Et Yeshua Benoun, il avait dit que celui qui construit la ville d'Éricho, quand il va commencer à construire la ville, son premier fils, il mourra. S'il continue à s'entêter, eh ben, ses autres enfants, ils mourront. Et quand il va mettre la porte de la ville, eh ben, son dernier fils, il mourra. Il y en a un qui était têtu. Et il allait jusqu'au bout et il a mis les portes et son dernier fils, il est mort. Comme c'était une grande personnalité, il a eu la visite de deux personnes. Un, le roi juif Achaf, le grand mécréant devant le Seigneur, et Elianavi, le prophète. Et les deux sont venus lui amener leur nechama. Non, ils sont assis à côté, Achav à côté du prophète. Alors Achav, il dit à Elianavi, tu sais, l'élève, il est plus fort que le maître. Et Elianavi, il dit, ça veut dire quoi? Il dit, le maître, c'est Moshe Rabbeinu. L'élève, c'est Yeshua Binoun. Moshe Rabbeinu, il a dit dans la Torah que si les Juifs y font l'idolâtrie, il n'y aura pas de pluie. Va tzaret eshamayim velo yamatar, vacharaf Hashem bachem, va tzaret eshamayim velo yamatar. Et aujourd'hui, les Juifs, ils font l'idolâtrie et la pluie, elle est toujours là. Par contre, l'élève Yeshua Benoun, il a maudit celui qui construit la ville d'Éricho. Et il a dit, quand on commence le premier fils, il meurt. Quand on finit de construire la ville, le dernier fils, il meurt. Et voilà, ce monsieur, il a fait. Et tous les enfants, ils sont morts. La malédiction de l'élève, elle est plus forte que la malédiction du maître. Alors, Elianavi, il a dit, bon, tu te moques de Moshe Rabbeinu. Eh bien, ce sera comme tu as dit. Tu dis que les Juifs font l'idolâtrie, il y a comme la pluie, eh bien, il n'y aura plus de pluie. Tant que moi, je n'ouvre pas le robinet, il n'y aura pas de pluie, c'est fini. Je ferme le robinet, il n'y aura plus de pluie que tant que les Juifs ne font pas tes chouva. Et, pht, il est parti. Pendant 3 années, pas une goutte de pluie. Et les Juifs, ils meurent. La famine, la catastrophe. Et Achav, il cherche Elianavi. Et il faut qu'Elianavi ouvre le robinet. Achav, il ne pouvait pas ouvrir le robinet du ciel. Et il cherche partout dans le monde. Et il ne le trouve pas. Après 3 années, bon, ça va. Elianavi l'envoie au Badia, dit à Achav, aujourd'hui je le rencontre. Et Elianavi rencontre Achav. Alors Achav dit, ah bonjour monsieur le rabbin, le destructeur du peuple juif. Alors Elianavi lui dit, bonjour monsieur le roi, vous êtes le destructeur des juifs. Toi et ta femme, que vous massacrez les prophètes et que vous entraînez les juifs vers l'idolâtrie. Alors, Achav dit, bon, après qu'on a ces aimables paroles, on a échangé, et Tachlit, tu ouvres le robinet ou pas? Il a dit, d'abord, il faut enlever l'idolâtrie. Il dit, ah, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Il dit, mais tu amènes tous ces faux prophètes, tous les prophètes du Baal, tous ceux qui prophétisent au nom de l'idolâtrie et qui tournent le peuple en bourrique, tu les amènes tous au Har HaKarmel et nous allons régler cette affaire-là. Est-ce qu'on croit au Dieu des Juifs ou est-ce qu'on croit au Dieu des Libanais? Alors, il a dit, Achav, d'accord. Ça monte, tu sais, à Carmel, ils ont mis les deux taureaux, tout le monde connaît l'histoire. Tout le monde était là, l'armée, avec les prophètes et tout. Vous prenez un taureau, moi je prends un taureau, vas-y, vous le sacrifiez. Et vous attendez que le feu d'automne du ciel qui est bleu. Et ils ont tout fait, ils prient à leur Dieu, rien de tout. Bon, ça ne marche pas. Maintenant, vous venez voir moi. Moi, je fais la shrita, le kvod Hashem. Et il verse de l'eau dessus et tout. On voit la foudre, il tombe. Le peuple, il voit ça. Hashem Elohim, Hashem Elohim. Le Dieu des Juifs, ça c'est le vrai Dieu. Alors, Elinavi, il dit à Achav, maintenant tu prends ces 450 faux prophètes, tu les prends maintenant. Et, chut, John le djihadiste, et ils ont décapité les 450. Et oui, Eliyahu, il a ordonné. Maintenant, on va les décapiter, ces gens-là. Ils ont décapité. Et dès qu'ils ont décapité, il commençait à pleuvoir. Et Elianavi l'a accompagné le roi jusqu'au palais royal. Et le roi, il rentre, il trouve contre sa femme Isabelle, la fille du roi du Liban. Il dit, quoi de neuf? Il dit, là, le rabbin Eliyahu, tes 450 copains, là, les faux prophètes, on les a tous coupés la tête. Qui, quoi? Eh bien, voilà, le rabbin, voilà, c'est ça qui est organisé. Ah, c'est Elianavi. Eh bien, demain, je lui coupe la tête. Non, Elianavi, il entend ça. Il part au désert du Sinaï. Ils se mettent au Har Sinaï, ils rentrent dans la grotte où Moshe Rabbeinu était dedans, et il donne sa démission à Hachem. Akadosh, ça suffit. Regarde, Akadosh, Kano Kineti, j'ai défendu ton nom, j'ai défendu ton honneur, j'ai réussi à décapiter ces faux prophètes, et ça ne marche pas. Isev est resté la même, Achav est resté le même, ils veulent me couper la tête. Ça ne marche pas, je donne ma démission, prends un autre à ma place. Et alors, il accepte la démission. Il dit, tu vas prendre ton élève Elisha et il va être à ta place. Très bien. Elianavi, il était un fanatique. Un fanatique. Va expliquer ça à Voltaire. Comment Voltaire, il a vu ça? Comment Voltaire, il a vu cette histoire? Il ne l'a pas vu. Il a vu. Il a donné son pied rouge dessus. Il déverse son dégoût sur Elianavi. Il n'y avait jamais quelqu'un. Depuis Achav jusqu'à Voltaire, il n'y a pas un qui a déversé tellement beaucoup de paroles sur Elianavi. Il a appris les paroles de Isabelle. Monsieur Voltaire, qu'est-ce qui crache sur Elianavi? Mais quel vulgaire personnage, quel fanatisme. Les gens, où est la tolérance? Les gens, ils veulent faire le culte du Dieu du Liban. Qu'est-ce que ça veut dire couper la tête? Lisez qu'est-ce que Voltaire il a écrit. Et pas que sur Elianavi, sur toute la Torah, sur tous les Pinchas. Mais la meilleure de tout, c'est que quand les Juifs ils ont fait le veau d'or, Moshe Rabbeinu il a pris les louchot, il les a cassés. Et après il a dit, Mille Hashem Elai, qui est pour Dieu, qui se met autour de moi, et Asfer Lav Kol Bnei Levi. Alors tous les Levi ils sont mis autour. Alors Moshe Rabbeinu il a dit, Milu Yetchem Hayom, aujourd'hui vous voulez grandir, Ivru Veshuv Omishar Lashar, Vir Guishan Asaf. Prenez l'épée et vous regardez ce qui a fait l'idolâtrie. Qui sont les fautifs de ce veau d'or? Ces gens-là qui ont fait le veau d'or comme il faut, ceux-là, vous les prenez et vous les égorgez. Il faut justice qui sera faite. Le peuple juif a changé. On a reçu le Torah Har Sinaï. Nous sommes maintenant quelques semaines après le Har Sinaï. Ils retombent dans l'idolâtrie d'Égypte. Ça ne passe pas. Ces gens-là, on va les éliminer. Qui les éliminer? Lévi. Shimon ve Lévi, que Yaakov a maudit leur colère. Il a maudit cette colère qu'ils ont pris l'épée pour tuer à la ville de Shrem, et ils ont tué leur propre famille. 3000 personnes, ils ont tué. Et Moshe Rabbeinu, il a dit, aujourd'hui, vous êtes devenus les serviteurs de Dieu. Serviteur de Dieu pour tuer quelqu'un? C'est un serviteur de Dieu. Mais je croyais que Yaakov Avinu, il a dit que maudit cette colère. Et quand Moshe Rabbeinu va mourir, Moshe Rabbeinu, avant de quitter les Juifs, il invite tous les Juifs. Et chaque tribu recevoit. Et il amène Lévi. Qu'est-ce qu'il dit à Lévi? Ou le Lévi Amar, au sujet de Lévi, qu'est-ce que Moshe il a dit? Tumecha v'urecha l'ish chassidecha. Le Urim et Tumim, toi Dieu, tu l'as donné au Kohen Gadol. Pourquoi Arnaken, tu l'as donné, qui est le chef des tribus de Lévi, le Ish, Chassidé, Chassé, l'homme, ton pieux, l'homme de ton chesse et de ta bonté. Toi Dieu, t'as choisi Aaron, Chassidé, c'est l'homme de chesse et de la bonté, de la gentillesse, de la douceur, de la piété. Ça, c'est l'homme de ta piété. Haomer qui disait la vie ou l'imo l'oritiv, et te chav lo ikir, et banav lo yada, qui chamrou imratecha, ou britra yinsoru. Parce qu'il a dit à son père et à sa mère, je vous connais pas. Et à ses frères, je vous connais pas. Et à ses enfants, je vous connais pas. Il a tué ses propres parents, Lévi. Les Lévim autour de Moshe, s'ils avaient un grand-père qui faisait Vodazara, il lui a coupé la tête. Et le grand-père, il a dit, je suis ton grand-père, pourquoi tu me tues? Il dit, parce que tu as fait le veau d'or. Mais de respect de je suis ton grand-père. Dieu avant toi. L'honneur de Dieu est avant ton honneur. Clac. Vetechav lo hikir, ses frères. Vet banav lo yada, il a tué ses propres enfants, Lévi. Les gens de la tribu de Lévi. Ki shamru imratecha. Parce qu'ils ont respecté les paroles de Dieu. Ou britra yintzoru, eux, ils protégeront l'alliance avec Dieu. Yoru mishpotech leakov et toratra l'Israël. C'est eux qui peuvent enseigner la Torah. Yassimu que Torah ba pecha va chale la misbechecha. Moshe Rabbeinu, il est en train de raconter que le fanatisme de Lévi vient de leur piété et de leur adhésion totale à l'alliance avec Hachem. Et après, Moshe Rabbeinu finit Barech Hachem Chilo, Ufoa Liadav Tirtze. Que Dieu bénit l'armée de Lévi. Ufoa Liadav Tirtze. Et que l'œuvre de sa main qui sera acceptée au ciel. Machatz Motnaim Konmav, ou Mesanav Minikomun. Et quand ils donnent des coups dans les anges de leurs ennemis, que les ennemis ne peuvent plus se lever. Que Dieu bénit l'armée de Lévi quand ils cognent leurs ennemis qui ne peuvent plus se lever. Mais quelle armée de Lévi? Depuis quand Lévi a une armée? Lévi, il est dispensé de la guerre. Quand tous les Juifs sont mobilisés pour aller à la guerre, on n'a pas le droit de prendre un homme du tribu de Lévi, parce que le tribu de Lévi, il est réservé pour Yoru Mishpotecha Yaakov. Ils doivent être à la Yeshiva, ils doivent être au Kollel, d'étudier et d'enseigner la Torah. Ils ne doivent pas être des guerriers. Et comment Moshe Rabbeinu peut dire Baruch Hashem Chelo, que Dieu il bénit l'armée? Et quelle armée? Une armée qui casse les anges de leurs ennemis. Ça, c'est la question de Rashi. Qu'est-ce que Rashi répond? Qu'il s'agit de la guerre de Hashmonaïm, l'histoire de Hanouka. Quand Matitya au Kohen Gadol, avec ses 12 enfants, ils ont pris l'épée et ils ont allé tuer les Grecs, et ils ont allé tuer aussi des Juifs qui collaboraient avec les Grecs. Et ces Juifs-là qui ont empêché les autres Juifs de faire les mitzvot et qui ont persécuté les Juifs religieux, les Hashmonaïm, ils ont fait la guerre. Et cette armée-là, Moshe Rabbeinu, il est béni. Baruch Hashem Chelo, que Dieu, il bénit cette armée, comme ça Rashi rapporte au nom de Chazal, et qu'il donne un coup à leurs ennemis qui ne peuvent pas se lever. Ici, Moshe Rabbeinu, il est en train de quoi? De s'opposer à 180 degrés à tout ce que Yaakov a dit. Yaakov, il a maudit avec les paroles les plus dures le fanatisme de Lévi. Et Moshe Rabbeinu, il est en train de donner les louanges fantastiques au fanatisme de Lévi. Qu'est-ce que ça nous apprend? Ça nous apprend que ce Lévi, une fois qu'il a entendu que son père, il s'est énervé contre sa colère, Lévi, il a fait une introspection. Et Lévi, il a dit, il faut que je change complètement mon comportement. Il faut que je devienne un homme de chesed. Il faut éliminer la colère. Papa, il a maudit la colère. Il faut que je lutte contre cette colère. Il faut que je sois l'homme gentil et du chesed. Et qu'être que gentil avec mes frères. Et il est devenu Tumecha Vurecha Lish Chassidecha. Il a fabriqué les tribus de Lévi, le summum de summum de gentillesse avec Aaron HaKohen. Mais la piété et la fougue, et être entier pour garder la moralité du peuple juif, il a gardé ça. C'est un homme entier. Et quand il faut agir pour l'honneur de Dieu, il a gardé toute cette chaleur. Mais là, les Lévites, ils ont consulté Moshe. Moshe les a appelés, faites-le. Ils n'ont pas agi sur leur tête. Ils n'ont pas agi sur leur coup de tête. Ah, Moshe Rabbeinu est plus intelligent que les tribus des Lévites. Il dit, aujourd'hui, milou yetchem hayom, aujourd'hui, ni hier ni demain. Aujourd'hui, le veau d'or, c'est le jour, maintenant il faut agir. Il y a des moments où il faut agir. Et quand il faut agir avec l'épée, c'est merveilleux. Malgré que c'est dégoûtant le son, mais maintenant c'est une mitzvah. Il y a des moments où le gentil doit intervenir avec l'épée. L'histoire d'Elianavi n'est pas terminée. Une fois qu'Elianavi l'a terminé avec ses 400, il a démis sa démission. Hachem lui dit, maintenant tu vas nommer à ta place Elisha Navi. Qu'est-ce qu'il a fait Elisha? Il a continué être le prophète, il a guidé le peuple juif. Jusqu'on arrive au fameux moment qu'Elisha Navi, il a un élève. Comment il s'appelle cet élève? Yona. Il appelle Yona. Il lui dit, viens Yona. C'est l'élève d'Elisha. Yona la baleine, vous connaissez Jonas la baleine? Alors nous on le connaît quand il était dans le bateau, mais il y a une autre histoire de Yona dans la Tanakh. Viens Yona. Est-ce que tu sais qu'Elianavi, il avait dit à Achav, parce qu'il a dérouté le peuple juif de la Torah, toute sa famille doit être exterminée. Tout le gouvernement, tous les gens du gouvernement d'Achav doivent tous être exterminés. Le moment il est venu de le faire. Qui doit le faire? Un chef d'armée qui s'appelle Yehu. Yehu Benimshi. Alors toi Yona, tu vas aller maintenant chez Yehu Benimshi. Il est là-bas avec ses soldats, ses officiers. Tu vas verser l'huile d'olive sur lui, et tu vas le nommer roi sur les Juifs. Yona Nevi vient, il rentre chez Yehu. Bonjour monsieur le généraux. Vous cherchez qui monsieur? Je cherche le chef, c'est moi le chef. Je peux vous parler en cachette? Il rentre dans la chambre, il prend la bouteille, voilà. Mon maître Elisha m'a envoyé, il verse l'huile sur la tête. Dieu vous a nommé le roi sur les Juifs. Et vous avez une mitzvah. D'exterminer la famille d'Achav. Qu'est-ce qu'il fait, Yehu? Il fait. Il va, il extermine la famille. Comment il est exterminé, je ne veux pas raconter ici, parce que c'est encore une fois à la Daesh, mais spécial, mais très spécial. Vous allez lire dans le Tanakh, c'est très, très macabre l'histoire. Une fois qu'il a fini de finir avec la famille d'Achav, il a dit maintenant, deuxième phase. Ça ne suffit pas la famille d'Achav. Maintenant, il faut aussi enlever tous les faux prophètes. Les prophètes du Baal, tous ces curés de Baal, de l'Avodah Zarah, eh bien, il faut les éliminer. Qu'est-ce qu'il a dit Yehu? Il a dit aux Juifs, publié dans tout Eretz Israël, Achav, il est un petit idolâtre pour le Baal. Moi, je suis le grand idolâtre. Je veux faire un grand festin à l'honneur de Baal. Que tous les curés du Baal, ils viennent tous. Et on va faire un grand festin, que personne ne manquera. Et ils ont invité, ils sont tous venus. Il a fait un immense bâtiment. Et ils étaient tous réunis. Après, il a donné à chacun des habits de curé. Et il a dit, faites le korbanot pour Avodah Zarah. Et autour de la maison, il a mis 80 guerriers. Il a dit, vous laissez échapper personne. Et quand ils ont fait le korban, Yahou lui a dit, il a donné le signe et ils ont fait un bain de sang. C'était 80 guerriers. Je ne sais pas combien ils étaient sécurés, 100, 200, 300, 400, je ne sais pas combien ils étaient. Ils ont tous massacré, il n'y a pas un qui a échappé. Non, il a fait ça. Elisha Navi vient chez Yehu. Il dit, monsieur Yehu, vous êtes un tzaddik. Dieu va vous récompenser pour ce que vous avez fait. Vous avez fait la volonté de Dieu et vous allez aussi, vous, vos enfants, vos petits-enfants, vos arrière-petits-enfants, vont être le roi sur les Juifs. Après cette histoire, qu'est-ce qu'il fait Yehu? Il devient idolâtre. Il devient idolâtre. Il a dit, Achav, il a fait le petit idolâtrie, moi je vais faire la grande, et il a fait la grande. Alors, Elisha Navi vient chez Yehu, il dit, viens Yehu, je peux te dire, maintenant que tu es idolâtre, je te dis ce qu'Hachem m'a dit. De la même façon que toi, tu as exterminé toute la famille d'Achav, viendra quelqu'un et va exterminer toute la famille de toi. Et va te punir pour ton idolâtrie et pour le fait que tu as osé de massacrer la famille d'Achav. Comme ça, le prophète lui a dit, alors on ne comprend plus rien. Alors on perd le latin. La veille, le prophète, il a dit à Yehu, parce que toi, tu as exterminé la famille d'Achav, Dieu, il est super content de toi. Tu es un fanatique pour Dieu, et Dieu, il est content de toi. Et après, le prophète lui dit, Pas seulement tu seras puni pour ton idolâtrie, mais tu seras puni parce que tu as tué la famille d'Achav. Mais attends, j'ai tué la famille d'Achav, je serai puni ou récompensé? Puni. Mais attendez, monsieur le prophète, vous n'étiez pas hier chez moi, vous m'avez dit je serai récompensé? Oui. Alors, je serai récompensé. Hier, c'est la décision, tu seras récompensé. Et aujourd'hui, aujourd'hui, tu vas être puni pour ce que tu as fait. Mais attendez, j'ai fait une mitzvah ou j'ai fait une avira? Une mitzvah. Pourquoi une mitzvah? Parce qu'il y avait un grand idolâtre. Il a trompé tous les juifs. On a enlevé, on a mis un roi tzaddik à la place. Ça mérite une récompense. Et maintenant, maintenant, vous êtes de nouveau un idolâtre. Alors vous êtes un idolâtre entre toi, Achav. On aurait pu garder Achav. Alors qu'est-ce qu'on a gagné? On aurait pu garder Achav. Bon, d'accord, on aurait pu gagner Achav, c'est vrai. Mais qu'est-ce que ça vous gêne que j'ai liquidé Achav? D'accord, mais alors je suis le même comme Achav, ça va. Mais pourquoi je serais puni parce que j'ai enlevé Achav? Mais t'as tué. Mais j'ai tué un idolâtre. Mais qu'est-ce que voulez-vous? Mais il était idolâtre, Achav, oui. Il méritait la mort, oui. Alors il méritait la mort, alors je tue un homme qui mérite la mort. Non, tu n'as pas le droit de tuer. Pourquoi? Parce que tu es aussi un idolâtre. Et alors? Et alors, mais lui mérite la mort, mais toi aussi. Bon, alors moi aussi. Mais pourquoi vous allez me punir parce que je le tuais? Parce que tu as tué. Parce que tuer, c'est péché. Et hier, j'avais reçu une récompense. Hier, la tuerie a été pour changer le peuple juif. Hier, c'était, vous avez défendu l'honneur de Dieu. Vous avez donné une nouvelle direction au peuple juif. Alors, il y a des cas exceptionnels où tuer, c'est une mitzvah. Mais quand vous faites la même idolâtrie qu'Achav, tuer, c'est un péché. Vous êtes un vulgaire voyou. Vous êtes un colérique. Vous êtes un idolâtre et vous avez utilisé l'ordre que je vous ai donné hier d'éliminer les idolâtres. Vous les avez utilisés pour vous mettre à la place. Vous avez cherché la royauté. Vous avez cherché devenir le chef. Et vous avez dit, le prophète, il m'a nommé, il m'a permis d'aiguiller le roi. Et je peux les tous éliminer. Et je mets à la place. Ah, pourquoi vous m'avez dit que je serais récompensé? Parce que je croyais hier que tu le fais pour l'honneur de Dieu, mais tu ne l'as pas fait pour l'honneur de Dieu. Tu es comme lui. Tu es comme lui. Tu es un vulgaire voyou qui, au nom de Dieu, il s'accapare la royauté. Eh bien, tu seras puni pas que pour l'idolâtrie, tu seras puni aussi pour ce que tu as fait à la famille d'Achav. Il y a une histoire dans la Gemara. Quelle heure est-il? 10h25. Encore quelques minutes. Il est marqué dans la Gemara, quand il y avait la destruction du deuxième Beth Amikdash, il y avait une secte qui est montée. Cette secte, on appelle les chrétiens. Les christianisés ont commencé à monter et ils ont demandé aux juifs d'abandonner la Torah. Apikorsim, du renégat, ils ont demandé aux juifs de suivre un faux prophète. Alors, c'est devenu pire et pire chaque jour, un peu pire. C'est marqué. Rabban Gamliel, le Nassi, il a réuni tous les Chachamim à Yavne. Il a dit, je voudrais vous poser une question. Tous les Juifs, ils font 18 bénédictions, le matin, midi, soir. On fait la Amida. Aujourd'hui, le peuple juif est en danger à cause de ces chrétiens. D'Apikorsim. Il faut qu'on prie Hachem de les éliminer. Qui est-ce qui est capable d'ajouter une 19e bénédiction? Qui est-ce qui est capable de me formuler un texte? Il s'est levé un monsieur, il s'appelait Shmuel HaKatan. Allez, Tanaïm, Shmuel HaKatan, copain de Rabban Gamliel. Il dit, moi je vous formule, monsieur le rabbin, Et quelle bracha il a fait? Velamal shini maltehi tikva. Que les apicorsim réussiront pas avec leur dessein, et tous ceux qui malchinim, comment traduire en français? Non, ça c'est mini malchinim, les délateurs, ceux qui demandent aux goyim de faire du mal aux juifs religieux parce qu'ils sont religieux. Malchin, c'est quelqu'un qui veut que les juifs soient massacrés parce qu'ils sont juifs et parce qu'ils sont religieux. Que ces gens-là, ils ne gagnent pas leur combat. Très bien. Alors, Shmuel HaKatan, il a instauré. Quand Shmuel HaKatan, il est niftar, la Gemara nous raconte, les gens, ils ont pleuré. Ils ont dit, Hay Anav, quel homme modeste. Hay Chassid, quel homme de bonté, de piété. Talmido shel Hillel Hazaken, c'était l'élève de Hillel. Hillel était connu pour sa piété, pour sa bonté. Il s'est jamais mis en colère, tout le monde connaît l'histoire de Hillel. Et Shmuel HaKatan, c'était l'élève de Hillel. Dans sa modestie, dans sa bonté, ça c'était Shmuel HaKatan. Rabbi Gamliel, il a demandé, qui est-ce qui est capable d'inventer un texte contre l'apicorsim? Qu'est-ce que c'est comme question? Mais elle est bizarre cette question. Qui est-ce qui est capable? Mais chacun. Qu'est-ce que vous voulez, monsieur le rabbin? Eh bien, il faut maudire ces apicorsim. Eh bien, maudire, tu prends un vocabulaire arabe et tu traduis en hébreu et tu as toutes les malédictions du monde. Quel est le problème? Pas difficile à trouver des malédictions qui seront maudites, qui rentrent dans la terre, qui seront broyées. Où est le problème? Chacun a une malédiction, tu trouves sur Internet. Et tape Wikipédia malédiction et tu en as pour tous les goûts. Où est le problème? Personne des Chachamim a osé de dire, je sais, il n'y a que Shmuel HaKatan. Mais, il y a une Mishnah dans Pirkei Avot. Il est marqué dans Pirkei Avot, Shmuel HaKatan Haya Omer. Il y a Ma'amar dans Pirkei Avot, Shmuel HaKatan, il a dit. Qu'est-ce qu'il a dit, Shmuel HaKatan? Une folle oyivra al tismach. Ubikoshlo al yageli becha. Penire Hashem bera beinav. Ve. Comment c'est marqué à la fin? Yagel me'ala vapu. Quand ton ennemi tombe, ne te réjouis pas. Quand il trébuche, que tu ne sois pas à l'aise. De peur que Dieu il va voir ça, ça ne lui plaira pas. Il va enlever le mal de l'autre. Qui a dit ce pasuk? C'est Shmuel HaKatan qui a inventé ce proverbe? Non, c'est Shlomo HaMelech qui a dit. C'est marqué dans Sefer Michelet. Bilfol oivimcha tismach, c'est Shlomo HaMelech qui a dit. Quand un ennemi, il a du mal, ne te réjouis pas. C'est Shlomo HaMelech qui a dit ça. Et la Mishnah dans Pirkei Avot, il dit Shmuel Hanavi, Shmuel HaKatan, il a dit. Mais c'est Shlomo HaMelech qui a dit. Alors Shmuel HaKatan, il a répété, Mazal Tov, moi aussi je sais répéter, tout le monde sait répéter Shlomo HaMelech. Mais le sens de la Mishnah, quand la Mishnah de Dunya Pirkei Avot, Rabbi Akiva il dit, et Rabbi Yossi a dit, et Rabbi Shimon il a dit, et Rabbi Yochanan il a dit, mais tout ce qu'ils ont dit, c'est Moshe Rabbeinu qui a dit, il n'y a rien de nouveau. Dans tout ce marqué en Pirkei Avot, c'est tout, Moshe Rabbeinu il a tout dit, Moshe Kibbel Torah Misinaï, ou Moshe Rabbeinu Yoshua, Yeshua Liskeni, mais toute cette Torah il a transmis, tout ce que les Chachamim disent après Moshe Rabbeinu a déjà dit. Mais quand on dit ce Tané il a dit, ça veut dire il a dit toute sa vie, il a répété toute sa vie, il a éduqué sa génération après ce principe. Ça c'est le pshat. Et pas seulement il a dit, il a vécu. Il y a des Tanaïm dans leur vie, ils ont réalisé un proverbe et toute la génération a été imprimée, imprégnée par ce proverbe. Ça c'est le sens. Shmuel HaKatan Haya Omer. Shmuel HaKatan, dans sa vie, il a répété à tous les Juifs, ne vous réjouissez pas quand votre ennemi tombe. Mais de quel ennemi on parle? Quand on dit un ennemi juif, mais pourquoi je me réjouirais quand mon ennemi tombe? Mais évidemment, on ne se réjouit pas quand mon ennemi tombe. Mais quel ennemi? Un ennemi que j'ai le droit de l'avoir comme un ennemi ou que je n'ai pas le droit de l'avoir comme un ennemi? Si je n'ai pas le droit de l'avoir comme un ennemi, je transgresse. Ne déteste pas ton frère. Mais évidemment, je n'ai pas le droit de détester, je dois enlever la haine. C'est-à-dire quoi de ne pas se réjouir quand il lui arrive du mal? Je n'ai pas le droit de détester. Alors, comme on nous dit, on parle d'un ennemi qu'on a le droit de détester. Parce que l'autre n'est pas religieux. Parce que l'autre rit contre la Torah. Et c'est un ennemi, je dois l'éloigner, cet ennemi. Et je dois empêcher sa réussite. Il veut détruire le peuple juif. Sur cet ennemi, Shlomo HaMelech, il dit, ne te réjouis pas quand il tombe. Hillel HaZaken, il a dit, on a des ennemis de l'intérieur qui veulent détruire la religion juive et le peuple juif. Ils vont chez les Romains pour dire massacrer les Chachamim. C'est ça qu'ils ont fait, les chrétiens. Flavius, il parle, il dit pas le mot chrétien parce que les chrétiens, ils ont enlevé. Mais il dit que les juifs pas religieux sont partis chez les Romains pour dire massacrer les Rabbanim, évidemment. Mais il fallait instaurer une malédiction. Mais si tu maudis ton ennemi et la malédiction se réalise, tu es content ou tu n'es pas content? Si tu es content, pas bon, on n'a pas le droit. Ça doit te faire mal au cœur. Il y a des choses qu'on doit faire pour Dieu, mais il faut que ça te fait mal au cœur. Si ça ne te fait pas mal au cœur, alors toi, tu es un abruti. Alors tu es un homme sans cœur. Tu défends le peuple juif sans cœur. Ça ne te fait pas mal qu'à l'autre juif, il a du mal. Ça, c'est interdit. Rabban Gamliel dit, qui est-ce qui peut instaurer la tfila de la malchinim? Pas n'importe qui peut l'instaurer. Pas n'importe qui. Il y a quelqu'un, moi je l'instaure. Moi je prends les malédictions, je les dis. Mais non, ça ne marche pas comme ça, monsieur. Ça ne marche pas comme ça. Il faut l'instaurer avec une kavana pure. On dit, Abraham et Yaakov, ils ont instauré la tfila. Abraham, il a instauré Shacharit. Mais nous tous, nous faisons Shacharit. C'est de quoi il a instauré Shacharit? Il a instauré les satellites. Quand je téléphone, je fais comme ça, je téléphone. Seulement avant que je téléphone, il y en a un qui a mis les satellites, ou il a mis les relais. Il y a un qui a installé la ligne. Abraham, il a installé la ligne pour chaque rite. Et maintenant, c'est facile pour chaque juif. Mais il faut qu'un tzaddik kadosh, il installe la ligne. Il serait qu'il lui a instauré Mincha. Yaakov, il a instauré Arvit. Shmuel HaKatan, il a instauré Levela Malchinim. Avec une kavana, c'est lui, c'était l'homme le plus modeste des juifs. L'élève de Hillel, Hay Chassid, Hay Anav, Talmido, chez Hillel HaZaken, l'homme le plus modeste des juifs, l'homme le plus tendre des juifs, le plus chassid, et que toute sa vie, il a dit, tu es un ennemi juif, défends-toi, ne te laisse pas influencer, mais il ne faut pas se réjouir quand il lui arrive du mal. Lui, il a éduqué toute la génération comme ça. Lui, il a instauré cet takana. Et quand on dit la malchine, il ne faut pas se réjouir après quand tu vois que ta tufila, il est accepté. Ça, c'est le sens. Ça, c'est le fanatisme. Le fanatisme qui n'est pas un fanatisme de barbarie. Il y a des gens qui sont fanatiques parce qu'ils aiment le sang. Ils aiment de voir du sang. Il y a des gens, on peut avoir un écran, on regarde des massacres, on est en train de manger des cacahuètes, on transgresse une avéra minatora, manger des cacahuètes quand on regarde un film d'horreur, c'est un assur minatora, c'est marqué dans la Torah, l'otochlou à la dame. Ne mangez pas, ne mangez pas quand on est en train de regarder un crime. Un crime doit faire du mal au ventre. Les frères, ils ont vendu Yosef. Une fois qu'ils ont vendu Yosef, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis au restaurant et ils ont commandé des truffes avec des chèvres grillades. Ils ont organisé un festin. Parce qu'il y a une halakha dans le Mishnah, dans Sanhedrin. Un Sanhedrin qui tue, qui exécute un homme, ce qu'on ne devrait pas faire plus qu'une fois dans 70 ans. tu es quelqu'un, un Sanhédrin ne doit pas utiliser la peine capitale qui est maximum une fois dans 70 ans. Sinon, on s'appelle un Bedin Chovlanit. Il ne faut pas tuer. Je ne parle pas à l'époque, après le Chorban, qu'on n'a plus le droit de tuer. À l'époque, on pouvait tuer. Tuer, ça doit être la dernière des choses. Et qu'est-ce qu'on fait s'il y en a plusieurs crimes? Eh ben, on n'a pas le droit. Alors, comment tu veux que je fasse? La Gemara dit, il faut embrouiller les témoins pour que ça tombe à l'eau, pour qu'on ne soit pas obligé d'exécuter, comme ça dit la Gemara Makot. On embrouille les témoins, jusqu'à les témoins, il ne sait plus où est ma tête. Ça y est, le témoignage tombe à l'eau, on ne peut pas tuer. Il faut laisser passer un témoignage qu'une fois dans 70 ans. Parce que ça doit rester exceptionnel. Alors, qu'est-ce que j'ai voulu dire? Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Ah, le repas. Il y a une halakha qu'un bedin qui a exécuté un bonhomme, il doit jeûner toute la journée. On n'a pas le droit de manger, parce que c'est marqué l'autochlou à la dame. Ne mangez pas après d'avoir tué quelqu'un. On tue quelqu'un, mais qui on tue? Le tzadik ou le rachat? Le rachat. L'homme qui mérite la mort? L'homme qui mérite la mort. Un homme qui est lapidé, il faut le pondre. Comme ça marque un chômage. Un homme qui est lapidé, il faut le pondre. L'autre livre, l'ivnato la etz, qui kavotik brene bayomaou, qui kilate le kim taloui. Mais quand on a pondu, il faut tout de suite le dépondre. La Mishnah nous dit, le type il est lapidé, on l'accroche, et quand on finit d'accrocher, on le décroche. On a une seconde, on le décroche et on l'enterre. Kikilate le kim taloui, parce que c'est une honte pour Dieu d'être un homme pondu. Ça veut dire quoi? C'est une honte pour Dieu, parce que l'homme, il est créé à l'image de Dieu. Donc un homme pendu, c'est une honte pour Dieu. Rashi raconte, ça ressemble à l'histoire de deux frères jumeaux. Un devenu le roi, et l'autre devenu un bandit. Un jour, le bandit, il a tué. Il s'est fait juger, il s'est fait condamner, il s'est fait exécuter. Alors ils ont pendu le gangster. Alors le roi, il passe, il voit son frère jumeau pendu. Il dit, aïe, c'est une honte pour moi. Les gens, ils vont croire, c'est moi. Enlevez-le. Là, on raconte, étant donné que l'homme, il est créé à l'image de Dieu, donc un homme pendu, les gens, ils vont dire, ça, c'est l'homme à l'image de Dieu, et lui, il est pendu. Dieu, ça lui fait mal au cœur. Alors Dieu, il dit, enlevez-le tout de suite et enterrez-le. Alors pourquoi Kadébouk a demandé de le tuer? Pourquoi Kadébouk a demandé de le pendre? Alors on ne comprend plus rien. Qu'est-ce qu'il veut, le bon Dieu? Il nous a demandé de prendre cet assassin-là et le pendre. Et après, il faut l'enlever tout de suite et enterrer parce que sinon, autour de Dieu. Alors, il ne faut pas le pendre. Non, il faut oui pendre. Pourquoi? Parce qu'il faut montrer aux gens, c'est grave. Toucher la moralité, c'est grave. Alors, il faut le pendre. Oui. Alors, pourquoi il faut l'enlever? Parce que c'est une honte pour Dieu. Alors, qu'est-ce qui est... Mais ça, c'est Mida. Mida, ça veut dire mesure. On est ici entre l'enclume et le marteau. Il y a la moralité d'un côté, et il y a certaines personnes que malheureusement on est obligé d'éliminer. Mais il y a l'honneur des humains, et l'honneur des humains, c'est l'honneur de Dieu. Un homme qui est pendu, c'est un honte pour lui, et c'est un honte pour Dieu, et c'est l'honte pour l'humanité. Il faut cacher des choses comme ça. Il ne faut pas voir des choses comme ça. Ça fait que les gens sont des abrutis. Il y a des gens qui aiment de voir des films du sang. Il y a des gens qui aiment de foutre la pagaille dans le monde. Il y a des anarchistes, des faiseurs de rien, des fouteurs de rien, des ratés de l'école, des ratés de la vie. Ils n'ont rien à faire. Et ils ont tant. Hein, on peut tuer pour le bon Dieu. On peut voir du sang. Hein. Et je suis un fanatique pour Dieu. Tu es un fanatique pour Dieu. Tu as raté ton école. Tu es un petit drogué. Tu es un type insolent. Tu t'es fabriqué un truc. Et peut-être il est encore dépressif. Et qu'il veut plus vite mourir parce qu'il ne trouve pas de copine ici. Là en haut, il en a plus. Et il est un fanatique pour Dieu. Et d'un fanatique pour Dieu. Et il va mourir comme héros. Ça, c'est la... là où il y a du sang, là où il y a de la virulence, là où il y a de la colère, là il faut une grande, grande sainteté. Il faut un homme très pieux. Il faut un ish chassidecha, un homme très pieux. Un homme que de bonté et de modeste, et qui défend pas son honneur, et qui défend que, et dans la bonne mesure, et sans colère, il s'indigne parce qu'il y a une immoralité qui se fait, et qui se fait consulter par le plus sage. Et il faut intervenir, et il faut pas que ça te plaît. Et il faut que toi, tu seras mieux. Si toi, tu seras pas mieux, tu peux pas éliminer quelqu'un si toi, tu n'es pas mieux. Pas seulement pour toi, même pour faire honte. On va faire honte à quelqu'un, on va l'insulter parce que vous avez fait une immoralité. Si toi tu fais la même immoralité, tu te la fermes. Oui, mais l'autre, il est pas, oui, l'autre n'est pas correct, mais toi aussi tu n'es pas correct. C'est la même chose, alors tu n'as pas le droit d'insulter. Pas n'importe qui a le droit de prendre, dire moussard aux gens. Voilà, je dis moussard, vous êtes comme ça, vous, et vous? Moi je suis comme vous. Bon, alors descendez de la tribune. Alors descendez de l'estrade. Vous n'avez pas à parler comme ça, monsieur. Si vous n'êtes pas meilleur, vous n'avez pas le droit de parler. Il y a beaucoup de moralisateurs dans le monde. Ils disent de morale aux autres, ils prêchent aux autres. Et vous êtes quoi? Vous êtes comme nous. Alors, on ne peut plus rien dire. Pas vous, monsieur. Quelqu'un qui mérite de parler. Quelqu'un, qui est Rabbi Golia, dit, mais qui est-ce qui peut intervenir pour faire la machinime? Aucun tanné l'a osé. Moi, je ne peux pas maudire un juif. Moi, je ne peux pas. En maudire un juif, qui je suis? De Tanaïm, Rabban Gamliel, il demande, qui est-ce qui peut instaurer la malédiction contre ces vulgaires délateurs? Il y avait là-bas Rabbi Eliezer, il y avait Rabbi Yeshua, il y avait, nous ne pouvons pas le faire, on ne peut pas maudire un juif. Mais je ne sais pas, moi je suis. Shmuel a dit, moi je peux. Moi j'aime tellement les juifs. Moi, j'ai lutté toute ma vie de ne pas se réjouir, Hasvei Shalom, et je ne le fais que pour Dieu, pour rien d'autre. Et c'est vraiment le cas qu'il faut. Shmuel la Katane, c'est lui qui l'a fait. Pinchas, il l'a fait. Pinchas ben Elazar, Eliyahu Navi était le Canaï. Elisha Navi était Canaï. Les Lévim, ils étaient des Canaïm. Mais Shimon ben Lévi, eux, ça, c'est pas la bonne chose. Ça, cette colère est maudite. Et tous les autres Canaïm. Yehu aussi, il va se prendre. Toi, tu vas prendre la même claque que Javi l'a reçu, tu vas aussi recevoir toi. Et aussi pour la fête, tu as utilisé cette virulence, soi-disant pour Dieu, mais ça n'était pas pour Dieu. Bon, d'accord, Shavua Tov.